Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, est en Outaouais pour la journée. Il était en Abitibi précédemment. Il s'est arrêté dans nos studios. Donc, c'est un plaisir de vous recevoir. Monsieur Duhaime, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, la première question que j'aurais à vous poser est bien simple. La campagne est terminée et on ne vous a pas vu ici dans la campagne. Pourquoi donc maintenant vous décidez de venir ici puis d'arrêter chez nous?
Je pense que c'est important là, de venir voir nos candidats, venir voir nos organisateurs, remercier nos gens. Le Parti conservateur du Québec a eu plus de 16 000 votes dans la région de l'Outaouais. C'est important de dire à ces gens-là qu'on apprécie beaucoup. On a une fondation solide sur laquelle on veut bâtir pour les 4 prochaines années. On a tout fait ça très rapidement. Le Parti conservateur, il y a un an, c'était 500 membres, 1% d'un sondage. Le 3 octobre dernier, là, on est rendu 62 000 membres. On a eu 530 000 votes. C'est un parti qui a connu une croissance phénoménale. Donc, on a fait ça très rapidement. Là, on a du temps, on a des ressources. On veut professionnaliser notre organisation. Donc, je suis ici là, pour rencontrer les gens, voir ce qui a bien fonctionné et aussi ce qui n'a pas bien fonctionné. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses au cours des 4 prochaines années?
Parce que là, vous êtes parti, puis vous l'avez bien expliqué, là, un parti qui était bon absent des médias. On n'entendait pas parler du Parti conservateur. Et là, c'est tout autre. Donc là, les 4 prochaines années vont être déterminantes. J'imagine que c'est un tout autre parti aussi qu'on va voir dans 4 ans. Là.
Bien, c'est un tout autre parti, c'est-à-dire qu'on laisse, ça va être les visées de base vont rester là. Tu sais, le Parti conservateur, c'est un parti qui est au centre-droit. Tu sais, c'est ça, ça ne changera pas. On est un parti qui veut réduire la taille de l'État. On est le seul parti qui propose ça. On est le seul parti qui veut additionner concrètement la contribution du secteur privé en matière de santé, par exemple, qui veut exploiter nos hydrocarbures, notre gaz et notre pétrole au Québec. Il y a des positions fortes qu'on a prises qui vont continuer à rester, mais on va pouvoir les développer un peu plus. Puis on va avoir évidemment plus de monde, t'sais. Fait qu'il va falloir qu'on accueille beaucoup d'autres personnes, donc on va travailler fort, puis on va s'assurer d'avoir de la visibilité aussi, parce que t'sais, comme vous dites, vous avez raison, là, il y a un an, il y a bien du monde qui ne savait même pas que ça existait, le Parti conservateur du Québec, et on a réussi quand même pendant la campagne électorale aussi, non seulement à avoir beaucoup d'appui, mais à augmenter la notoriété du parti.
À quoi vous attribuez justement cette hausse des appuis au sein de la population?
Bien, c'est sûr qu'il y a eu la crise sanitaire, faut pas se le cacher, qui a amené de l'eau au moulin pour nous. Moi, je serais pas en politique s'il n'y avait pas eu cette crise-là. C'est évident que moi, la gestion de la crise, j'étais pas d'accord. Je me suis levé, je me suis retroussé les manches, j'ai dit, bien, je vais faire ce que je sais de faire dans la vie, je vais aller communiquer, je vais plonger. Il y a des gens, donc, mais en même temps, les raisons pour lesquelles on s'objectait à ce qui s'est passé, c'est parce qu'on est des gens qui voulons défendre nos droits civiques, qui voulons défendre nos libertés individuelles, qui voulons défendre la démocratie comme on l'a toujours connue. Donc, ces valeurs-là vont rester, même une fois la crise terminée. Et c'est maintenant de voir, avec nos membres et nos militants, comment on va décliner ça sur l'ensemble des autres sujets qui préoccupent les Québécois. Et là, après une crise, en vient une autre. Hein, on a eu la crise sanitaire. Là, ça va être une crise économique qui commence à se pointer à l'horizon. Là aussi, le Parti conservateur va avoir une approche bien différente qui va dire, regarde, c'est le gouvernement qui doit serrer la ceinture, pas les contribuables. Donc, on va développer d'autres positions. Fait que je pense que c'est la différence idéologique. Le Québec a été pris dans un carcan entre des oui et des non. T'sais, on était toujours divisé sur la question constitutionnelle. Là, on est en train de sortir de ça. Et c'est pas un hasard si la dernière campagne électorale, autant le Parti québécois que le Parti libéral ont connu leur pire score depuis l'existence du parti. C'est pas juste la faute à Dominique Anglade ou de Paul Saint-Pierre Plamondon. Là. C'est parce que il y a un contexte historique qui est en train de changer. Les Québécois sont en train de tourner la page sur un débat, puis ils sont en train d'en ouvrir une autre sur un nouveau débat, puis une nouvelle polarisation, peut-être en plus entre des gens de plus à droite puis plus à gauche.
Le défi, je pense, puis vous me corrigerez si je me trompe, de votre parti, ça va être de demeurer dans l'échiquier politique, être sur les tribunes, être dans les médias, comme vous n'avez pas de député à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas le droit de tenir des conférences non plus à l'Assemblée nationale. Comment vous allez vous attaquer à cette réalité qui joue contre vous, là?
Bien, l'exemple, c'est que je suis ici aujourd'hui. C'est ça, c'est il y a toujours un côté positif à quelque chose de négatif, le fait que M. Legault refuse de faire entrer un Québécois sur 7 à l'Assemblée nationale. Hein, c'est la plus grosse distorsion démocratique de l'histoire du Québec. Là. C'est la première fois qu'un parti obtient autant d'appui puis qu'il n'est pas à l'Assemblée nationale. Et pour vous donner un exemple aussi, c'est la première fois qu'un parti part de rien puis monte aussi vite. Le Parti québécois, sa première élection, là, c'était avec l'ARN, ils ont fait 6%. Le parti de la Mario Dumont avec l'Action démocratique du Québec est devenu l'ADQ. On fusionnait avec l'ADQ, la CAQ plus tard. Okay. L'ADQ a eu 6%. Le Parti Québec solidaire a eu moins de 4 % aux deux premières élections. Donc, nous autres, 13 % c'est énorme. Comment on va faire pour continuer à alimenter ça? Bien, je vais faire des tournées des régions. On va se doter de porte-parole dans les régions. On va intervenir sur les dossiers. Tu sais, la politique, c'est du monde. Et on a la chance d'avoir aussi aujourd'hui beaucoup de réseaux sociaux. C'est facile. On est capable de communiquer directement avec plusieurs personnes, puis on va être capable d'aller à la rencontre des gens.
En région, on a des défis qui peuvent ressembler à ceux de la ville. T'sais, on regarde main-d'œuvre, logement, la santé, mais c'est peut-être des défis particuliers. T'sais, si on regarde justement le transport, ben on n'a pas d'autobus chez nous. C'est trop des. C'est quoi les enjeux en région qui vous préoccupent, qui vous interpellent davantage?
Mais justement, j'arrive de l'Abitibi, qui est votre région voisine. Écoute, là-bas, là, j'ai été estomaqué de voir les problèmes parce que la pénurie de main-d'œuvre, on en parle beaucoup au Québec, mais il y a des régions où c'est particulièrement criant. Puis il n'y a pas de solution simple parce que tu dis, OK, on va faire venir des immigrants, mettons. Bien, s'il n'y a pas de logement, s'il n'y a pas de place en garderie, tu n'es pas plus avancé.
La langue, faut les accueillir.
Le problème linguistique. Il y a un paquet de problèmes. Il faut, qu'on réussisse à faire travailler nos aînés un peu plus tard. Comment on peut inciter les gens à raccrocher à l'emploi? Comment on peut inciter les gens à faire plus d'heures, à être plus productifs, à robotiser ce qui est faisable? Il y a un paquet de défis qui se posent en région de façon différente. Vous venez de parler aussi de l'exemple des ressources. Moi, je pense que, on est dans des régions ressources, là, veut pas. Il y a un lobby environnemental à Montréal qui fait un gros travail. Ça prend un contrepoids. J'arrive d'une région en Abitibi où il n'y a plus de ministre du tout. Ces gens-là ont une réalité qui est bien différente de celle du plateau Mont-Royal. Et malheureusement, leur voix n'est pas entendue. Je regarde M. Legault qui vient de faire la composition de son conseil des ministres. Non seulement il a oublié l'Abitibi-Témiscamingue, mais la majorité de ses ministres maintenant viennent de la grande région de Montréal. Puis c'est pas quelque chose contre Montréal, là, mais le Québec, c'est pas Montréal. C'est aussi autre chose. Et qui va faire le contrepoids, puis qui va représenter les régions, notamment les régions ressources, pour parler en faveur du développement de nos ressources? Parce que, tu sais, c'est toujours vertueux, puis ça paraît bien, là, parler au niveau de l'environnement. Mais si on est pour tout fermer au Québec, puis empêcher les gens de travailler, puis qu'on va envoyer ces emplois-là ailleurs, parce que ça va se faire ailleurs, là, on n'est pas plus avancé, on va être plus pauvre, puis la pollution risque d'être encore pire parce qu'elle va être moins encadrée qu'elle l'est au Québec. Donc, il faut avoir un contrepoids pour dire, gars, c'est beau les discours environnementaux, mais il faut aussi que le Québec n'oublie pas qu'on est un territoire riche en ressources, puis il faut les exploiter, nos ressources.
Le développement, manque de main-d'œuvre, l'économie en région, tout ça parle beaucoup aussi de télétravail. Ça regroupe le télétravail. Vous l'avez vu là, en vous déplaçant, le réseau cellulaire est inexistant à bien des endroits, réseau Internet également.
Parlez-moi en plus, je vais faire une entrevue en m'en
venant. C'est ça. C'est impossible. Impossible, mais ça, c'est une réalité chic pour l'Internet. Il y a eu des engagements à ce niveau-là, mais c'est pressant de le faire. Là. L'Internet, on aurait dû le faire il y a quelques années. Là, le gouvernement de Legault, M. Legault, s'est engagé pour 2026, je pense, la cellulaire.
C'est hallucinant. Hein? On va sur la Lune, puis on n'est pas capable de se promener entre deux villes sans que la communication coupe.
Puis mettre des tours, ça prend pas 6 ans. Là.
Non, ça prend pas 6 ans, puis c'est pas si compliqué. Et ça, c'est sûr que... Puis le télétravail, vous le soulignez, là, la crise sanitaire a eu un effet bénéfique. On parlait toujours que les régions se vidaient, puis que c'était Montréal qui allait continuer de croître. Là, on voit exactement le phénomène inverse.
On l'a vécu chez nous aussi.
Puis ici aussi, vous le voyez, il y a de plus en plus de gens. Puis c'est normal. Si tu as le choix, t'es-tu bord de l'eau avec une mais d'inquiétude, avoir du terrain, puis entre deux horaires de travail, t'es capable d'aller te promener dans le bois, ou t'es capable d'aller te promener sur le lac en canot. C'est pas la même réalité que de prendre une marche dans un centre-ville où tout le monde crie. Il faut favoriser ça, mais cette nouvelle réalité-là va entraîner des nouveaux défis parce que, veux pas, plus les gens vont s'établir dans des régions, bien, plus il va y avoir des demandes pour les services publics. Donc, les écoles, les hôpitaux, il va falloir qu'on trouve une façon de repenser l'intervention de l'État. Puis, je pense pas que l'État a à diriger, à décider où les gens doivent habiter. C'est un choix très personnel et individuel. Il faut respecter ce choix-là. Puis l'État, c'est à lui à s'ajuster.
Les accommoder.
Au choix des gens.
Y a un enjeu qui résonne chez nous. On a un projet estimé à peu près 160 millions de dollars. C'est une usine de nouvelles technologies. Du côté de Déléa, juste un jet de pierre, c'est 50 à 100 emplois que ça créait pour une région comme chez nous. C'est important.
C'est gros.
Il parle de c'est des batteries, des panneaux solaires. Puis tout ça là-dedans, il y a aussi du minage de crypto-monnaies. Il y a une décision, en fait, il y a la CAQ qui a récemment demandé à la Régie de l'énergie de revoir là, un bloc réservé de 270 mégawatts. Je ne sais pas si vous êtes au courant.
Oui.
Mais en fait, ma question est plutôt de savoir quelle serait votre approche, vous, par rapport à ça, justement? Parce que nous, on a un projet qui pourrait être porteur pour la région et qui, là, pourrait être freiné parce qu'on veut garder ce bloc-là. Vous pensez quoi de ça, vous?
Bien, moi, j'ai toujours pensé que la meilleure façon d'utiliser notre énergie, c'est de créer de l'emploi au Québec. Tu sais, puis je vois que présentement, c'est pas ça la priorité, c'est beaucoup d'exporter, là. Puis c'est d'essayer de dire aux Québécois, économiser l'énergie. Il faut diversifier les sources énergétiques. Tantôt, je vous ai parlé des hydrocarbures, oui. C'est un exemple, mais vous avez raison. Tu sais, les barrages, j'ai entendu François Legault dire qu'il voulait construire des barrages en campagne électorale. Il nous a jamais dit où, il nous a jamais dit s'il y avait des ententes avec les Autochtones sur le territoire. Il a lancé ça un peu de haut, là. J'espère que c'est vrai. Moi, je pense qu'il faut diversifier nos sources d'énergie, puis il faut créer de l'emploi avec cette énergie-là.
Pour pas perdre des projets comme ça.
Pour pas perdre des projets comme ceux-là. Puis il y en a d'autres ailleurs. J'arrive aussi de la Côte-Nord. Ils m'ont parlé un peu d'un projet un peu similaire au vôtre. Okay. Il y a des régions qui ont des bons projets. Puis, tu sais, ça permet d'avoir des jeunes qui restent en région, qui sont dans les technos, habituellement, on les pensait qu'ils étaient dans des hangars juste au centre-ville de Montréal, encore une fois, mais non. Ils ont le goût de rester dans leur région d'origine ou de revenir ou de fuir les centres urbains. Je trouve que c'est quelque chose de positif. Ça va permettre une mixité aussi dans plusieurs régions parce qu'ils sont souvent monolithiques, là, t'sais, c'est mono-industriel. Mm-hmm. Donc, le gouvernement, l'énergie, c'est une source de création de richesses et l'État devrait favoriser ça plutôt que de toujours dire non. Là, ils ont dit non aux crypto-monnaies. Ils disent non à un paquet de projets présentement. Moi, ils ont dit non. Puis, tu sais, je vais vous donner un autre exemple. Là, au Saguenay, le GNL, c'est oui. un projet de gazoduc. Puis, c'était du gaz naturel liquéfié, 14 milliards de dollars. Ils ont dit non. Là, aujourd'hui, on voit qu'avec ce qui se passe en Europe, le Québec aurait été un leader. Là. C'est une énergie qui est de transition verte. On aurait aidé d'autres régions dans le monde. C'est très difficile à comprendre que le gouvernement, son approche anti-énergie. J'espère, là, M. Fitzgibbon vient d'arriver, on va y laisser la chance de faire ses preuves. Là, il vient d'arriver au ministère de l'Énergie, mais j'espère qu'ils vont réviser ces décisions-là parce que ça n'a pas de sens.
La dernière question, je voulais la garder pour la fin parce que je sais que c'est quelque chose oui. qui vous, tout le monde vous la pose, là, cette question-là, la réforme du mode de scrutin, oui. là, parce que votre parti en est un exemple parfait. Toutes les parties, puis je vous apprends rien, mais tous les partis disent toujours, on va s'engager à le faire, puis finalement, ils réussissent à se faire élire, bien souvent, en raison du mode de scrutin actuel. Comment on va... On va-tu finir par le changer, le mode de scrutin? Puis si oui, comment? Qui va... En fait, qu'est-ce qui va devoir... Tu sais, les étoiles vont devoir être alignées pour que ça arrive. Parce ouais. que là, toutes les fois, que ce soit au fédéral ou au provincial, ils finissent par se détourner de leur engagement.
C'est une excellente question. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne l'ai pas promis. Moi, je suis le seul parti qui ne s'est pas engagé à proposer une réforme
du mode de scrutin. Vous auriez bénéficié de ça, là.
On en aurait bénéficié. Si François Legault avait tenu sa parole, s'il n'avait pas renié son engagement qu'il avait pris envers les Québécois il y a 4 ans lors de sa première élection, le Parti conservateur du Québec aurait aujourd'hui 10 députés à l'Assemblée nationale. Mmh. M. Legault a décidé de renier sa parole. Il avait signé un engagement formel là, de sa main. Mais comment ça va se faire, pour revenir à l'essentiel de votre question? Moi, je pense pas que ça doit se faire dans un contexte partisan. Si ça a à se faire, c'est pour ça que je l'ai pas promis. Parce qu'il faut pas que ça soit un parti qui l'impose. On parle d'une réforme démocratique. Le bout, ça serait que ça soit adopté de façon non démocratique. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se dise, oh, regarde, là, au-delà de la partisanerie, c'est pas sain, c'est pas bon pour personne. Je donne notre exemple à nous, là, de dire à 530 000 Québécois, vous pouvez pas rentrer à l'Assemblée nationale. C'est pas quelque chose qui est souhaitable. Le message qu'on envoie, c'est vos votes ne comptent pas.
C'est pas au cynisme non plus.
C'est ce qui est dangereux, c'est que, puis on le voit à toutes les élections, le taux de participation n'arrête pas de descendre. Moi, je pensais que l'arrivée du Parti conservateur, parce qu'on a un discours différent, allait faire monter le taux de participation. Mais même à cette élection-ci, le taux de participation au Québec a encore descendu. Il y a plus de 36 % des Québécois qui n'ont même pas été votés le 3 octobre. Ça, c'est une catastrophe. La démocratie, c'est quelque chose d'extraordinairement précieux d'une société, puis il faut préserver ça. Puis la première chose, c'est d'exercer notre droit de vote, puis d'inciter le maximum de Québécois à exercer son droit de vote. Puis malheureusement, le mode de scrutin actuel fait en sorte qu'on est en train de décourager les gens de voter. Mmh. Puis on n'a pas besoin non plus de faire juste une réforme de mode de scrutin. Là. Présentement, M. Legault pourrait dire, écoutez, il y a deux partis, il y a une QS, ils sont à 11 sièges, on s'entend, ils sont quasiment un groupe parlementaire. Pourquoi ils ne reconnaissent pas? C'est le Parti conservateur du Québec, on va faire des assouplissements juste pour s'assurer que l'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple. Mais le peuple s'est exprimé. Mmh. Il y a 60 % des Québécois qui n'ont pas voté pour François Legault, il ne faut jamais oublier ça. Mais ces gens-là aussi ont le droit d'avoir une voix au chapitre.
Ouais. Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, c'est un plaisir de vous recevoir dans nos studios. Vous êtes en tournée en Outaouais. J'imagine qu'on va vous recroiser dans les 4 prochaines années.
C'est un plaisir partagé. Je vais avoir du temps d'être sur la route. Oui. Je vais revenir vous voir de temps en temps. Ça va toujours être un plaisir.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Dans les prochaines, c'est avec Rose-Marie Guénette, paramédic en Outaouais, qui a participé à la réanimation d'un jeune garçon de 7 ans. C'était l'été dernier. Et heureusement, il y a un dénouement heureux à cette histoire-là. On vous en reparle dans un instant.